RFI, 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et avec vous, Arthur Poncelet, un nouveau journal à la une. On n'a nulle part où aller, il n'y avait pas d'armes ici. Reportage grand format à Jabalia, dès le début de ce journal.
Notre correspondant s'est rendu dans un dispensaire de l'UNRWA, frappé par l'armée israélienne. L'État hébreu l'accuse d'abriter des terroristes. Les bombardements ont fait une vingtaine de morts. Rassurez-vous, tout se passe très bien. Réaction de Donald Trump hier, 24 heures après l'annonce de ses droits de douane sur le reste du monde. Des taxes qui secouent l'économie et les bourses du monde entier. Wall Street a connu sa pire journée depuis 5 ans. Et partout dans le monde, on s'interroge comment riposter à cette offensive commerciale. Au sommaire également, les dirigeants de l'Union Européenne sont en Ouzbékistan. Coup d'envoi aujourd'hui du sommet UE-Asie centrale, ce sera notre dossier. Et puis des rats et des cafards dans les assiettes des clients, c'est au Japon que ça se passe. La plus grande chaîne de restauration rapide au cœur d'un scandale sanitaire. On vous raconte tout à la fin de ce journal.
Ils ont été visés par des tirs alors qu'ils étaient à bord d'une ambulance, puis leurs corps ont été recouverts de sable, poussés dans une fosse commune par un bulldozer. À Gaza, la mort de 15 travailleurs humanitaires fait réagir.
Un meurtre, dit même le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, s'inquiète de possibles crimes de guerre dans l'enclave palestinienne. Nouvelle illustration de la reprise des combats par Israël le 18 mars dernier. Des écoles, des dispensaires sont visés par l'armée israélienne qui les accuse d'abriter des terroristes. Ce matin, RFI vous emmène dans un dispensaire médical de Jabalia, visé cette semaine par des frappes. Notre correspondant à Gaza, Rami Al-Merari, s'est rendu sur place. Son reportage avec Sami Boukhalifa à Jérusalem.
Le bâtiment visé, un centre de santé de l'ONU où avaient trouvé refuge 160 familles palestiniennes déplacées. Les flammes ont dévoré tout un étage. La frappe a fait une vingtaine de morts, parmi lesquels 9 enfants. C'est un massacre, raconte Khaled, un survivant.
Les enfants tués étaient très jeunes. Le plus âgé avait 9 ans et la plus jeune une dizaine de jours. On a retrouvé son corps, mais pas sa tête.
Des photos et des vidéos de la dépouille du nourrisson mutilé ont été partagées sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, l'armée israélienne affirme que des membres du Hamas se trouvaient à cet endroit. Faux, dément cet autre survivant, Hussein.
Il n'y avait aucun combattant, il n'y avait aucune arme ici. Nous avons été surpris par une première frappe, puis une seconde, je crois, sans avertissement préalable. Ce ne sont d'ailleurs que des civils qui sont morts, des femmes, des hommes et des enfants ont été tués. Ici, c'est un simple centre d'accueil de l'UNRWA.
L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, explique avoir pourtant transmis les coordonnées géographiques du bâtiment à l'armée israélienne et précise que de nombreuses familles restent sur place car elles n'ont nulle part où aller. Rami Al-Merari, Gaza, Sami Boukhalifa, Jérusalem. RFI.
Et ce matin, on apprend également la mort d'un cadre du Hamas et de deux de ses enfants, cette fois, dans une frappe israélienne dans le sud du Liban. L'armée israélienne dit aussi avoir lancé une nouvelle offensive au sol dans un quartier de Gazaville, afin, je cite, d'étendre la zone de sécurité. La Russie, elle, frappe toujours les infrastructures énergétiques en Ukraine. Déclaration ce matin des ministres français et britanniques des Affaires étrangères. Les chefs d'état-major de la France et du Royaume-Uni annoncent qu'ils se rendront en Ukraine demain. De son côté, l'émissaire russe est arrivé à Washington hier. Bien sûr, a dit Kirill Dmitriev à la presse, il y a des désaccords, mais le dialogue nous aidera à les surmonter.
Ce devait être le jour de la libération. Ça s'est transformé en la pire journée pour les bourses américaines depuis 5 ans.
Après les droits de douane annoncés par Donald Trump, le séisme sur les places boursières du monde entier. À Wall Street, les secteurs de la tech et de l'habillement sont en chute. Idem pour le pétrole qui perd 6%. Ces droits de douane ont un risque important pour l'économie mondiale, a même dit cette nuit la patronne du FMI. Mais Guillaume Nodin, face aux critiques, face aux inquiétudes, Donald Trump, lui, se veut rassurant.
Je pense que tout se passe bien. C'est un Donald Trump confiant qui fait le point après la clôture de la pire journée sur les marchés financiers depuis 2020. Il compare ses décisions à une opération chirurgicale dont le patient doit désormais se remettre. Un processus qui, selon lui, va mettre 2 ans à faire sentir ses effets bénéfiques, explique-t-il un peu plus tard dans l'avion qui l'emmène vers la Floride pour un week-end largement consacré au golf. Toute la journée, ses supporters l'ont défendu bec et ongle sur des écrans repeints en rouge pour illustrer la chute des marchés dont dépendent notamment les retraites de nombreux Américains. Son secrétaire au commerce Howard Lutnick, qui fait partie des promoteurs du plan, suggérant même de laisser Donald Trump s'occuper de l'économie globale. Tout le monde ne l'entend pas forcément de cette oreille. Le sénateur républicain de l'Iowa, Chuck Grassley, et sa collègue démocrate de l'État de Washington, Maria Cantwell, proposent une loi qui donnerait au Congrès le droit de valider ou non les droits de douane décidés par le président. Quatre sénateurs républicains se sont en outre joints à une proposition démocrate pour annuler les droits de douane contre le Canada. Tout ceci a très peu de chances de passer à la Chambre des représentants, mais fait tout de même entendre un son de cloche un peu différent au sein du camp républicain. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
Donald Trump tout puissant et face à lui des pays qui cherchent la parade. Comment riposter à ses droits de douane? C'est la question qui agite le monde entier, notamment l'Union européenne. Bruxelles frappée de 20% de taxes sur ses exportations vers les États-Unis. Pas de riposte avant la fin du mois, a prévenu hier Emmanuel Macron. Elle pourrait aller au-delà des droits de douane, déclare ce matin le ministre français de l'économie. L'Union européenne traversera la tempête, ça c'est ce qu'a dit le premier ministre irlandais hier. L'Irlande, où ses droits de douane sont difficiles à avaler, Clémence Pénard, tant le pays dépend du marché américain.
Selon l'économiste Emma Howard, l'impact sera considérable.
Parmi tous les pays de l'Union européenne, l'Irlande sera la plus durement touchée par les droits de douane, surtout si l'UE riposte en imposant des mesures réciproques aux États-Unis, ce qui ne ferait qu'aggraver les effets négatifs.
Avec l'agroalimentaire en première ligne pour Dennis Drennan, président de l'association des fournisseurs de lait, c'est l'avantage accordé aux principaux concurrents dans le secteur, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, seulement à 10% de droits de douane, qui va pénaliser l'Irlande et des produits emblématiques comme le beurre Kerrygold.
Espérons que cela ne rende pas l'achat trop cher pour les Américains. Il serait vraiment regrettable que le beurre néo-zélandais supplante Kerrygold, mais nous restons confiants. Le goût, la qualité et la durabilité de notre produit sauront faire la différence. Cependant, chaque fois qu'un produit haut de gamme devient encore plus cher, cela pose problème.
Dennis craint ainsi pour l'emploi. L'agriculture en Irlande fait vivre plus de 100 000 personnes. L'industrie pharmaceutique semble pour l'instant, elle, avoir été épargnée. Mais c'est un répit de courte durée. Des droits de douane spécifiques sont attendus dans les semaines à venir. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Et autre réaction à noter ce matin, celle du premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, parle de crise nationale et appelle à garder la tête froide face à ces menaces.
RFI 7h07, en temps universel, le nouveau conseiller de Donald Trump pour l'Afrique poursuit, lui, sa tournée sur le continent.
Massad Boulos est attendu au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. Hier, il était à Kinshasa, la capitale congolaise, où il a rencontré le président Félix Tshisekedi. Ensemble, les deux hommes ont évoqué les questions sécuritaires, mais aussi leur collaboration économique. RFI Kinshasa, Pauline Azidi.
C'est un grand plaisir d'être à Kinshasa. Ma première étape en tant que conseiller principal du président Trump pour l'Afrique.
Massad Boulos, pour sa première rencontre avec un chef d'État africain, a donc choisi la RDC. Deux heures d'un entretien fructueux dans une ambiance détendue et conviviale, souligne-t-on du côté de Kinshasa. Les deux pays se disent prêts à dynamiser leurs échanges économiques.
Pour atteindre cet objectif, soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois, de transferts de connaissances, d'investissements dans l'infrastructure de pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité.
Et Massad Boulos d'annoncer que les deux pays travaillent sur le deal minier. Pour les Américains, c'est un accès aux ressources contre une aide à la sécurité. Du côté de Kinshasa, on mise surtout sur l'influence des États-Unis pour mettre fin au conflit qui secoue l'est du pays, où l'armée est aux prises avec le groupe M23 soutenu par le Rwanda voisin. Kigali, c'est d'ailleurs la prochaine étape de Massad Boulos et il a un message à faire passer, confie un proche du président Tshisekedi. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
En plus bref, dans l'actualité du continent, la Libye ferme les bureaux d'une dizaine d'ONG internationales, les accusant, je cite, d'activités hostiles. Parmi elles, Médecins sans frontières, le Conseil norvégien pour les réfugiés ou encore le HCR. Les détails à lire sur RFI.fr. 4 ans de carrière politique éclipsée en 23 minutes. En Corée du Sud, Yoon Suk-yeol a été définitivement destitué. Décision à l'unanimité de la Cour constitutionnelle cette nuit. Dans leur arrêt lu en direct à la télé, télévision, les juges l'accusent d'avoir violé la Constitution après avoir instauré la loi martiale en décembre dernier. « J'ai le cœur brisé de ne pas avoir pu répondre à vos attentes », a réagi l'ancien président.
C'est une région riche en ressources naturelles et stratégiques par sa proximité avec la Russie et la Chine. L'Asie centrale au cœur d'un sommet avec l'Union européenne.
C'est notre dossier ce matin sur RFI. Les présidents de la Commission et du Conseil européen sont à Samarcande. C'est en Ouzbékistan. Les dirigeants du Kazakhstan, du Tadjikistan et du Turkménistan sont aussi de la partie. Bonjour Anastasia Becchio.
Bonjour.
C'est le premier sommet de ce genre. Avec la guerre en Ukraine et l'incertitude autour du lien transatlantique, l'UE multiplie les efforts pour diversifier ses partenariats.
Oui, elle cherche à renforcer ses liens politiques et économiques avec cette région où la Russie et la Chine cultivent leurs intérêts depuis longtemps. En ouverture de la session plénière tout à l'heure, Antonio Costa a appelé à construire un partenariat mutuellement bénéfique, parlant d'un nouveau chapitre. L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie et les sanctions qui la touchent ont redessiné les cartes, comme le précise Michael Levistone, doctorant et cofondateur de l'Observatoire de la Nouvelle-Eurasie.
L'Asie centrale redevient en fait une espèce de plaque tournante pour les échanges commerciaux, puisque la Russie redéploie une partie de ses exportations qu'elle ne peut plus destiner au marché européen vers les pays amicaux, comme elle les appelle, tels que l'Asie centrale évidemment, mais aussi l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde.
Et c'est là que l'Union européenne entend s'impliquer.
Oui, avec un maître mot, connectivité, c'est-à-dire les infrastructures de transport, la logistique, les routes, le rail. En 2021, la Commission européenne a lancé l'initiative Global Gateway en réponse aux nouvelles routes de la soie chinoise. Elle prévoit d'investir, par exemple, avec d'autres acteurs, plus de 10 milliards d'euros dans le développement du corridor de transport transcarpien, cette route commerciale qui contourne la Russie via la mer Caspienne.
Autre priorité, Anastasia, la sécurité.
Au sens large, il y a bien sûr la lutte contre le djihadisme, les trafics de drogue dans cette région voisine de l'Afghanistan, mais aussi la sécurité énergétique. Dans le contexte de tensions avec la Russie, il faut chercher d'autres sources d'approvisionnement. Le Kazakhstan est un fournisseur très important de pétrole pour les pays comme l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie. Il fournit de l'uranium à la France. Et puis, cette région est aussi riche en minerais, terres rares et autres métaux stratégiques. Pour conquérir ces marchés, l'Union européenne a changé de stratégie. Elle devient plus pragmatique avec ses États autoritaires, explique Michael Levistone.
C'est vrai que l'Union européenne était un petit peu donneuse de leçons à expliquer qu'il fallait démocratiser des régimes qui le sont très peu. Il y a eu un changement intéressant qui s'est opéré en 2019. L'UE a arrêté de considérer qu'elle devait démocratiser ces régimes et qu'elle devait les prendre pour ce qu'ils sont.
Et un pragmatisme qui n'est pas du goût d'ONG comme Amnesty International, qui a publié un communiqué appelant à placer la protection des droits humains et la sauvegarde de la société civile dans les pays d'Asie centrale au cœur de ce tout premier sommet UE Asie centrale.
Anastasia Becchio pour le dossier du 7h à retrouver sur notre site RFI.fr. On part pour le Japon avant de refermer ce journal. Du cafard dans le riz et des souris dans le bœuf, la plus grande chaîne de restauration rapide du pays est au cœur d'un scandale sanitaire. Sukiya ferme cette semaine ses près de 2000 établissements dans le pays pour une opération exceptionnelle de désinfection. La suite, c'est Bruno Duval qui nous la raconte à Tokyo.
Au Japon, les gyudon de la chaîne Sukiya sont immensément populaires, ce terme désignant des bols de riz garnis d'oignons mijotés et de fines lamelles de bœuf braisé. Que dans ces plats, on ait trouvé aussi un rongeur puis un cancrelat, ces tokyoïtes n'en reviennent pas.
Quel scandale ahurissant! Cette fermeture générale, elle était vraiment inévitable.
Fermé pendant une semaine, ça ne suffit pas. Il faut expliquer les raisons de ces incidents aussi effarants et les mesures qu'on va prendre pour éviter qu'ils ne se reproduisent.
Moi, en tout cas, je ne mettrai plus jamais les pieds dans les restaurants de cette enseigne.
Des dizaines de milliers de salariés au chômage technique et pas la moindre démission au sommet de cette chaîne, les bras m'en tombent.
Il y a quelques années déjà, la filiale japonaise du géant américain des hamburgers, puis une chaîne de restaurants de sushi, avaient été épinglées pour la propreté régnant dans leurs établissements. Les experts attribuent cette succession de scandales à la pénurie de main-d'œuvre qui frappe le pays, due à près de 20 années de dénatalité. Comme il y a de moins en moins de jeunes à embaucher, la plupart des entreprises sont en sous-effectif, elles bâclent donc la formation du personnel et les contrôles de qualité. Bruno Duval, Tokyo. RFI.
Tokyo, il est tout juste 16h14, 8h14 à Londres. Who Believes in Angels? Qui croit aux anges? C'est le titre du nouvel album d'Elton John. Ça sort aujourd'hui. La méga star britannique, 78 ans, s'offre un duo avec l'américaine Brandi Carlile. On le croyait pourtant retiré du show business depuis sa tournée d'adieu. Eh bien, que nenni, pour notre plus grand plaisir, Julien Coquelroem.
Oui, ça fait plaisir. Il est toujours debout, comme dit l'un de ses tubes. C'était le journal d'Arthur Ponchelet. Merci beaucoup, Arthur. Elton John sur RFI, il est 9h15 à Paris et tout de suite c'est la revue de presse. Avec vous Catherine Potet, le tour de la presse internationale et à la une, évidemment les droits de douane imposés par Donald Trump.
Une décision qui met le monde en ébullition. Les tarifs douaniers font chuter les marchés et attisent les craintes de récession, titre le Washington Post, qui pour le moins s'inquiète. La vague de nouvelles taxes à l'importation devrait coûter aux consommateurs et aux entreprises américaines des centaines de milliards de dollars, modifiant radicalement les perspectives économiques. Le quotidien américain parle d'une guerre commerciale qui a entraîné hier les marchés financiers dans leur plus forte baisse en une journée depuis 2020. Le Wall Street Journal, de son côté, annonce que les Américains se ruent vers les téléviseurs et la sauce soja. Certains stockent même les produits importés. C'est en tout cas ce que conseille le milliardaire Mark Cuban, qui soutient les démocrates et qui suggère donc à ses abonnés sur Blue Sky de stocker du dentifrice ou du savon, tout ce qui peut être stocké avant le réapprovisionnement. Même si c'est fabriqué aux États-Unis, assure le milliardaire, ils augmenteront les prix et imputeront la faute aux droits de douane.
L'Union européenne, elle aussi, s'inquiète, Catherine.
C'est El País en Espagne qui nous explique la situation. L'Union européenne, nous dit le quotidien espagnol, redoute une avalanche de produits asiatiques qui ne seront pas vendus aux États-Unis. La Chine, le Vietnam et d'autres pays de la région sont parmi les plus durement touchés par les hausses de tarifs douaniers de Trump et pourraient chercher des débouchés pour leurs exportations sur d'autres marchés.
Et l'onde de choc Trump, qui ne date pas d'hier, a des effets imprévus.
C'est ainsi qu'au Canada, le journal Le Devoir nous apprend que se pose la question des voyages scolaires au pays de Trump. Le quotidien nous explique que le voyage à New York d'une centaine d'élèves a été annulé. Ils iront plutôt à Toronto. Pas question d'encourager le pays de Donald Trump qui a juré de détruire l'économie du Canada pour faire de ce dernier le 51e État américain. L'idée est d'éviter autant que possible les achats de produits et de services américains. À l'approche des congés de fin d'année, nous dit Le Devoir, les dirigeants du réseau scolaire québécois s'interrogent sur la pertinence de boycotter les États-Unis. Certains maintiennent toutefois leur séjour aux USA, ne serait-ce que parce que tout est payé à l'avance.
Enfin, en France, Catherine, les journaux reviennent sur les propos tenus hier soir par Emmanuel Macron.
Face aux droits de douane de Donald Trump, Emmanuel Macron bat le rappel des industriels français, titre Le Monde. Le chef de l'État a réuni à l'Élysée les secteurs les plus exposés, ajoute le quotidien français. Il souhaite une suspension des investissements aux États-Unis le temps de la négociation. Pour Libération, Emmanuel Macron engage le bras de fer. Le président se dit décidé à ne pas laisser faire, à nous défendre et nous protéger. Mais pour tenir le rapport, remarque Libération, encore faut-il rester groupé. Les plus gros auront tendance à jouer solo, a dit Emmanuel Macron. Si la réponse est de faire des concessions immédiates et d'annoncer des investissements pour négocier des exemptions, c'est une très mauvaise idée, a également déclaré le chef de l'État. Présent à l'Élysée, remarque Le Monde, Rodolphe Saadé, le PDG du géant français du transport maritime CMA-CGM, n'a pas scié. Lui qui, début mars, avait promis à Donald Trump d'investir 20 milliards de dollars aux États-Unis, un moment immortalisé par les caméras dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Rodolphe Saadé, qui n'est pas revenu sur sa promesse en sortant de l'Élysée, précise Le Monde.
Catherine Potet, merci beaucoup, à demain. Et pour Donald Trump, encore lui, la lune de miel avec Vladimir Poutine est-elle déjà finie? En début de semaine, le président américain s'est lui-même dit saoulé et furieux contre son homologue russe qu'il menace de sanctions. Reste que le rapprochement entre Washington et Moscou, la mise de côté des Européens dans les négociations sur l'Ukraine, ont poussé les pays de l'UE à faire front commun et à réaffirmer leur position. Pas de levée de sanctions avant un retrait inconditionnel des forces russes d'Ukraine. Alors à la télévision russe, les Européens et tout particulièrement la France et le Royaume-Uni ont remplacé les États-Unis comme figure de l'adversaire au nid des relations UE-Russie qui se tendent, et un exemple ce matin dans un lieu souvent décrit comme le baromètre de ces rapports, l'enclave russe de Kaliningrad entre la Pologne et la Lituanie. Anissa El-Jabri s'est rendue sur place.
Kaliningrad, fin de journée, un stade dans la ville, une partie de football, des coureurs sur la piste et deux adolescents de 17 ans venus s'entraîner pour leur futur concours d'école supérieure.
Je postule à l'école navale de Saint-Pétersbourg parce que je considère qu'être militaire dans notre pays est un honneur.
Moi, je postule à l'école supérieure d'artillerie de Moscou parce que je suis un patriote et que je veux défendre mon pays jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Je suis convaincu que les Iskander sont des armes de haute technologie capables d'accomplir n'importe quelle mission. Et je suis fier que nos scientifiques puissent réaliser de telles performances avec cette arme.
Les Iskander sont déployés à Kaliningrad depuis 2018. Ces missiles sont capables d'envoyer des charges conventionnelles ou nucléaires à 500 km. Ils peuvent donc atteindre plusieurs pays voisins de l'Union européenne. Cette fierté pour Eugène et Pavel, membres d'un des clubs militaro-patriotiques de la ville, est partagée, insufflée par le dirigeant de l'association. Il a demandé à être présenté sous le nom de Maxim Maximovski.
C'est bien que tout le monde y pense et les craigne. C'est très bien. C'est notre totem de protection. Bien sûr, nous sommes un os dans la gorge de l'Europe.
Base de la flotte russe de la mer Baltique, Kaliningrad et ses 15 000 km² sont une forteresse ultra militarisée au milieu de pays de l'OTAN. Depuis le début de la guerre en Ukraine et les sanctions, les tensions avec les voisins directs, Pologne, Lituanie, ne cessent d'augmenter. Pourtant surnommée la Russie européenne, Kaliningrad a longtemps été, au vu de sa position géographique, très intégré à l'économie de l'UE. En 3 ans, Sergueï Gos, patron d'une entreprise de camions de fret international, a dû réorienter toute son activité. Son chiffre d'affaires, dit-il, n'a pas été affecté, mais 3 ans après, il décrit encore la rupture avec émotion.
La manière dont les choses se sont passées entre nos collègues occidentaux et nous a été très laide. Et malheureusement, on s'en souvient encore. On attendait une commande d'équipement, elle était payée, et tout d'un coup, l'argent nous a simplement été renvoyé, et on nous a dit qu'on ne recevrait rien. C'était vraiment moche et on devrait toujours se souvenir, avant de claquer la porte, qu'on pourrait devoir la rouvrir.
Ce n'est pourtant franchement pas pour maintenant. Les déclarations des dirigeants de l'Union européenne ont bien été reçues ici, y compris par Sergueï Gos.
Les sanctions n'ont pas été imposées pour ensuite être annulées rapidement.
Anissa El-Jabri, Kaliningrad, RFI.
Notre reportage international à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Et l'autre conséquence du rapprochement Moscou-Washington, des menaces de Trump contre ses alliés et des tensions grandissantes avec la Russie, c'est que les Européens ont amorcé leur réarmement. 800 milliards d'euros annoncés par l'UE pour renforcer la défense des États membres, des discussions sur une défense, voire une dissuasion commune, et des pays qui, les uns après les autres, augmentent leurs dépenses militaires. Exemple en Grèce ce matin, alors qu'Athènes prévoit d'injecter 25 milliards d'euros dans la modernisation de son armée. Au cours des 10 prochaines années, les autorités grecques ont détaillé mercredi le projet qu'elles présentent comme la transformation des forces armées la plus importante de l'histoire moderne du pays, également membre de l'OTAN. Bonjour Joël Bronner.
Bonjour.
Correspondant de RFI à Athènes, avec nous ce matin. En quoi consiste cet investissement massif en matière de défense ?
Tout d'abord, devant le Parlement grec, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a justifié l'importance des dépenses qui doivent être engagées d'ici à 2036 en évoquant un monde qui change à un rythme imprévisible et la modification des équilibres géopolitiques tels qu'on les connaissait. Concrètement, au cœur de cette modernisation à 25 milliards d'euros, il y a la volonté de la Grèce de renforcer de manière significative sa défense anti-aérienne, anti-missile et anti-drone. l'ensemble de ses futurs moyens, les autorités helléniques l'ont baptisé « bouclier d'Achille », en référence aux guerriers de la mythologie grecque. Par ailleurs, Athènes prévoit d'autres investissements technologiques, notamment l'achat de radars et de drones, toutes sortes de drones, qu'ils se déplacent dans les airs, sur l'eau ou sous l'eau. Et autre point saillant de ces futurs investissements, Athènes envisage de renforcer son aviation avec 20 avions de combat américains, des F-35. Un accord en ce sens a d'ailleurs déjà été signé.
5 milliards d'euros, Joël, c'est une somme conséquente, mais la Grèce avait aussi pris du retard au cours de la décennie de crise économique qui l'a frappée.
Oui, pour certains analystes grecs, il s'agit d'une réforme et d'une réorganisation de l'armée effectivement nécessaire. Pendant des années, la Grèce, rappelons-le, a vu ses dépenses publiques complètement gelées. Donc, en plus du contexte international actuel, il y a sans doute une sorte d'effet de rattrapage maintenant que l'économie nationale s'est en partie redressée.
Avec la Pologne, l'Estonie et la Lettonie, la Grèce est l'un des 4 pays de l'OTAN dont le budget de la défense dépasse les 3% de son PIB. En plus de ce rattrapage que vous évoquez, Joël, qu'est-ce qui justifie l'importance de ces dépenses militaires ?
Comme toujours, Athènes justifie l'achat d'armement par rapport au voisinage de la Turquie. Les Turcs, ce sont les héritiers de l'Empire ottoman, à qui la Grèce moderne a arraché son indépendance il y a 200 ans. Et au cours des dernières décennies, des désaccords sur les frontières maritimes ont conduit plusieurs fois les deux pays au bord d'un conflit armé, même s'ils sont tous les deux membres de l'OTAN. La conséquence ici en Grèce, c'est donc que la Turquie est toujours perçue comme une menace potentielle dont il faut tâcher de se protéger. Et cette protection, elle a un coût, qui est estimé aujourd'hui à 25 milliards d'euros.
Joël Bronner, merci beaucoup et bonne journée à Athènes où il est 10h25. 7h25 en temps universel dans les dessous de l'Infox cette semaine. Cap sur la République démocratique du Congo, où la situation reste tendue dans l'Est entre les rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées congolaises et leur soutien. Les affrontements se déroulent sur le terrain, mais aussi en ligne, où la désinformation est omniprésente. Et parmi ce flot d'Infox, un phénomène est à la mode. Attention, celui des faux journaux de RFI. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Julien.
Ces derniers jours, l'identité de la Radio du Monde a été plusieurs fois usurpé dans le but de désinformer massivement la population.
Oui, si vous suivez la situation en RDC ou que vous êtes membre de groupes congolais sur WhatsApp, vous avez probablement vu passer ce journal audio faussement attribué à RFI. Durant 4 minutes et 44 secondes, on y entend plusieurs voix synthétiques, inauthentiques. La première imite celle de notre journaliste au service Afrique, Arthur Ponchelet.
Dans une annonce surprenante, Corneille Nanga Yobeluo, ancien président de la
Commission électorale. S'ensuit celle de Corneille Nanga, le coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo dont fait partie le M23.
Moi, Corneille Nanga Yobeluo, me tiens devant vous.
L'extrait se conclut enfin avec une imitation de la voix de la correspondante de France 24 en RDC, Aurélie Bazara Kibongula.
Bonjour Arthur, ici c'est la stupéfaction, peu de gens s'attendaient à une...
Voilà, des imitations plutôt bien faites, assez perturbantes même. Mais attention donc, RFI n'est pas à l'origine de ce contenu.
Eh bien non, cet audio a été entièrement généré via l'intelligence artificielle. Les propos attribués aux trois interlocuteurs ont été fabriqués de toutes pièces. Ce contenu est faux sur la forme, mais aussi sur le fond, puisque contrairement à ce que l'on entend, Corneille Nanga n'a ni annoncé qu'il déposait les armes, ni demandé des excuses ou une grâce présidentielle.
Et sait-on qui est à l'origine de cette fausse information ?
Alors, non, le fait que l'infox ait d'abord été publié sur WhatsApp rend très difficile l'identification des commanditaires. Ce que l'on sait, c'est que différents comptes se présentant comme des médias en ligne l'ont repartagé sur TikTok, Facebook, YouTube ou X. Aujourd'hui, l'infox circule sous différentes formes avec de nouveaux visuels qui usurpent toujours l'identité de RFI.
Et ce n'est d'ailleurs pas le premier faux extrait de RFI qui circule en RDC.
Non, début mars, un audio siglé RFI affirmait que Félix Tshisekedi allait démissionner après un accord historique entre Kinshasa et le M23. Mais là encore, cette infox était générée par intelligence artificielle. Ce type de manipulation se multiplie ces derniers mois et touche différents médias internationaux.
Alors Grégory, question très pratique. Quand on voit ce type de contenu siglé RFI sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, comment savoir si c'est un vrai ou si c'est un faux ?
Eh bien, le meilleur moyen de s'assurer de l'authenticité d'un contenu attribué à RFI, c'est tout simplement de consulter directement notre site internet ou nos réseaux sociaux. Si l'audio ou l'article en question n'y figure pas, alors c'est un faux. En étant vigilant et observateur, on peut aussi se rendre compte de l'utilisation de l'IA dans le cas de ce faux journal. Plusieurs utilisateurs ont pointé le ton robotique et la mauvaise qualité sonore. Mais au moindre doute, le réflexe à adopter, c'est de remonter à la source.
Comme toujours, merci Grégory Genevrier. La source, c'est le 3 www.rfi.fr. Et l'émission Les Dessous de l'Infox, c'est ce soir, comme chaque vendredi, à 17h30, temps universel, bientôt 7h30, TU sur RFI, bientôt 9h30 à Paris. L'info revient dans une minute sur RFI, à tout de suite.
Salut, c'est Assalfo et revoilà le FEMUA. La 17e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumambo vous attend du 15 au 20 avril prochain à Abidjan et Daloa sous le thème civisme et sécurité routière. Cette année, vous aurez Angélique Kidjo, Caris, Smarty, Takana Zion, José, Imra et plein d'autres artistes pour mettre l'ambiance. Le FEMUA, c'est aussi le volet social avec l'inauguration des écoles primaires Magic System de Badika, Jacquesville et San Pedro.
En partenariat avec RFI. Anoumambo
est béni. C'est ça qui est la vérité.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Les semences améliorées sont devenues pour les agriculteurs l'une des solutions pour s'adapter aux effets du dérèglement climatique. Quels sont ses avantages et ses contraintes? Nous en parlons avec des acteurs maliens de la chaîne de valeur de ces variétés améliorées.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.